Radio Okapi.
Des meurtres, des viols et des pillages par les groupes armés sont toujours décriés en Ituri, cette fois au sud d'Irumu. Les communautés locales sollicitent l'accompagnement de la MONUSCO jusqu'à la stabilisation de ces entités. Elles ont émis ce vœu durant la visite sur place d'une délégation de la MONUSCO conduite par son chef de bureau en Ituri. Les agents de la compagnie minière de Kambove, Komika, étaient en grogne ce matin dans le Haut-Katanga. Ils exigent l'organisation des élections syndicales telles que décidées par la ministre du Travail et Prévoyance sociale. Le directeur général adjoint de cette entreprise a promis de s'exprimer prochainement. Ce vendredi 12 mai 2023, journée internationale des infirmiers, nos infirmières, notre culture, c'est le thème retenu cette année. Pour en parler, l'invité de ce journal s'appelle Komba Djeko. Il est le président de l'Ordre national des infirmiers du Congo, ONIC. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. Commençons par l'Ituri, où des violences communautaires se poursuivent dans les chefferies des Walendubindi, Baema Boga et Banyari Tchabi au sud du territoire d'Irumu. Les groupes armés y commettent régulièrement meurtres, viols et pillages. Face à ces défis, les communautés locales sollicitent l'accompagnement de la MONUSCO jusqu'à la stabilisation de la situation sécuritaire dans ces entités, dit-elle. Cet appel des communautés locales du territoire d'Irumu a été lancé lors de la visite sur place d'une délégation de la MONUSCO conduite par son chef de bureau en Ituri. Karna Soro revient de la zone où les bases de la MONUSCO ont été fermées, notamment à Aveba. Jean-Claude Loki a fait partie de cette délégation.
Pour réduire ces violences, la jeunesse demande à la MONUSCO d'organiser et de financer des formations professionnelles et des projets communautaires tels que la maçonnerie, la menuiserie, la mécanique ou encore la coupe et couture. Le président de la société civile d'Aveba affirme que, faute d'occupation, certains jeunes du milieu se livrent à des actes de banditisme et parfois avec des armes à feu. Antipas Baraka.
Nous avons demandé à la MONUSCO surtout de former ces jeunes, parce qu'une fois ces jeunes seront formés, ils auront leur occupation dans la communauté. Quelqu'un qui est déjà occupé ne peut pas se donner à des actes de vandalisme.
Pour sa part, le président de la communauté Niali de Tchabi plaide pour la réalisation des projets communautaires qui vont inciter de nombreux jeunes ayant fui l'activisme des rebelles d'ADEF de regagner leur village. En réponse, Marc Carnassoro, le chef de la MONUSCO en Ituri, espère réaliser des projets à impact durables qui vont réellement réduire les risques de violences communautaires.
Il va y avoir des discussions approfondies avec eux pour identifier les types de projets que nous pouvons faire qui peut effectivement avoir un impact sur la réduction de cette violence communautaire.
Le but de cette visite dans ces entités était de rencontrer les populations locales afin de les écouter et voir dans quelle mesure apporter des solutions aux défis sécuritaires quasi quotidiens auxquels elles font face. De retour de la zone, Jean-Claude Loki, d'Ile Radio Okapi.
Une vive tension a régné ce vendredi matin à la compagnie minière de Kambove Komika. Les agents de cette entreprise située dans le territoire de Kambove, province du Haut-Katanga, exigent l'organisation des élections syndicales telles que décidées par la ministre du Travail et Prévoyance sociale. On écoute l'un des manifestants, Jean-Pierre Jean Gandou.
Les gens sont en train de brûler des pneus et brandir des calicots sur lesquels ils sont en train de réclamer l'organisation des élections syndicales et aussi l'amélioration des conditions sociales des agents. Depuis plusieurs jours déjà, les agents ont rédigé des mémos qu'ils ont adressés à des différentes instances, dont le gouvernorat du Haut-Katanga, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, à l'administrateur du territoire de Kambove, au DG également de Komika. Les agents sont en train de réclamer l'organisation à tout prix des élections parce que ça fait déjà 6 ans qu'on avait attaqué Otuk comme maison syndicale qui nous représentait, mais nous avions remarqué que ces deux maisons n'ont rien arraché dans les mains de l'employeur. Les avantages liés au salaire sont insignifiants. Et vu l'arrêté de la ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale du 23 février, qui a donné l'aval à ce que les employeurs organisent les élections dans toutes les entreprises, nous avions également saisi l'opportunité pour rédiger des mémos. On a envoyé à des différentes instances. Et puis là, ce matin, les agents se sont soulevés maintenant pour manifester. Dans la concession, tout est calme, les machines sont à l'arrêt. On a arrêté toutes les usines, l'usine de la première phase qui est un concentrateur et l'usine de la deuxième phase qui est une usine électrométallurgique.
Ici à Kinshasa, une séance académique sur le Fonds vert pour le climat, un mécanisme financier de l'ONU rattaché à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a eu lieu hier jeudi au Conseil économique et social. Cette séance académique, dirigée par Jean-Pierre Kiwakana Kimayala, président de cette institution consultative, a reçu comme orateur l'ambassadeur du Fonds vert, Tosi Panumpanu. Cet économiste de formation avec plus de 2 décennies dans le développement durable a d'abord présenté le Fonds vert pour le climat en évoquant sa vision, ses objectifs et son fonctionnement. Puis il a expliqué les raisons pour lesquelles la RDC, pays solution en matière de lutte contre le réchauffement climatique, peine à ce jour à bénéficier des financements du Fonds vert pour le climat. On écoute Tosi Panumpanu dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Le fonds porte donc sur des actions d'atténuation, réduction des gaz à effet de serre, sur des actions d'adaptation. On a procédé à une discrimination positive en nous assurant que seuls 50% des financements allaient vers l'atténuation. Parce que généralement, les financements climatiques font la part belle à l'atténuation et ne donnent pas beaucoup de ressources à l'adaptation. Ce fonds-là donne 50% à l'atténuation, 50% à l'adaptation. Des 50% qui vont à l'adaptation, 50% vont aux petits étincelles en développement, aux pays les moins avancés, aux pays africains. Et donc ce fonds est censé vraiment accompagner les États les plus vulnérables face au changement climatique. Malheureusement, à cause de raisons telles que la faiblesse de certains arrangements institutionnels au niveau local, la faiblesse de certaines institutions financières, puisque parfois le fonds appelle à faire du cofinancement au niveau local, la faiblesse au niveau de certaines capacités à élaborer un pipeline de projets bancables, viable. Tout ça fait que malheureusement, nous n'ayons pas pu accéder à ce fonds à la hauteur d'autres pays qui vraiment ont pu bénéficier de ce fonds pour plusieurs financements.
Au Maniema, le gouvernement provincial dit ne pas être à mesure de réparer la route au centre-ville de Kindu, au croisement du boulevard Joseph Kabila et l'avenue du 4 janvier, où une grande partie de la voirie s'est affaissée. Le gouverneur intérimaire Afani Idrissa Mangala a fait savoir ce vendredi que selon l'office de voirie et drainage OVD Maniema, la réhabilitation de cet endroit appelé Place Sona Hydrock nécessite plus $1 million. Afani Idrissa Mangala plaide pour un mot d'ordre du ministre national des Travaux publics au niveau de FONER pour décaisser le financement pour ces travaux afin de limiter les dégâts. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Les ingénieurs, les techniciens nous ont dit que ce lieu-là, il a fallu un bouleversement total. Donc, ça nécessite un montant très important auquel nous avons demandé l'OVD de nous faire un devis. Le devis estimatif est allé au-delà de $1,246,000 que le gouvernement provincial n'est pas à mesure de prendre ça en charge. Et comme vous le voyez, c'est un lieu très stratégique. D'abord, c'est la voie qui mène vers la Banque centrale du Congo. L'Ako Hydro est déjà parti et c'est la voie aussi qui nous amène vers la gare de la SNCC. Donc, ça sera très difficile pour nous d'engager ces travaux compte tenu de la capacité de mobilisation de nos ressources. Depuis qu'on avait envoyé les dossiers au ministère national des travaux publics, c'est au mois de décembre et aujourd'hui nous sommes au mois de mai. Donc, c'est pourquoi nous venons de lancer ces cris d'alarme, c'est plaidoyer auprès de nos autorités pour qu'ils nous viennent urgemment en aide parce que les devis estimatifs sont déjà envoyés. Ce qui reste, c'est l'ego du ministre, son avis favorable au niveau du FONER pour que le FONER nous envoie ses fonds.
Albert Mukulubundu, notable d'Idiofa dans la province du Kwilu et porte-parole du parti de l'opposition Nouvel Élan de l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito, dénonce ce qu'il qualifie d'enlèvement d'une 20aine de jeunes filles. Dans une déclaration faite ce vendredi, il affirme que ces jeunes filles sont détenues au secret à Kinshasa par l'Agence nationale de renseignement ANR. Albert Mukulubundu exige la libération sans condition de ces jeunes filles qui vivent selon lui dans des conditions difficiles. Il demande aussi à la justice de se saisir de cette affaire qui s'apparente à un trafic d'êtres humains. On écoute Albert Mukulubundu, notable d'Idiofa.
J'ai appris l'enlèvement de 27 jeunes filles originaires du territoire d'Idiofa. Dans l'âge varie entre 18 et 23 ans. Ces jeunes filles seraient actuellement dans la ville province de Kinshasa, précisément dans la commune de Lantélé, dans un local que seul l'ANR assure le contrôle. Cet enlèvement serait l'œuvre d'une fondation qui aurait fait miroiter à ces jeunes filles quelques avantages matériels et un voyage de formation professionnelle au Canada. J'exige non seulement la libération de ces jeunes filles, mais aussi leur rapatriement à Idiofa, car elles vivent dans des conditions inhumaines depuis qu'elles sont arrivées à Kinshasa. En ce qui concerne les auteurs de cet acte, je demande à la justice d'ouvrir une enquête afin de faire la lumière sur ce réseau de trafic humain qui doit avoir bénéficié probablement de la complicité des autorités locales. Sans quoi, je serai dans l'obligation de saisir les organisations de défense de droits humains au niveau international. Je rendrai responsables les autorités de la ville province de Kinshasa sur tout ce qui pourrait arriver à ces jeunes filles.
Il y a quelques jours, la police nationale lançait l'opération de traque des enfants dits de la rue dans la cité frontalière de Kasindi. C'est pour, dit-elle, lutter contre la criminalité urbaine. Une semaine après son lancement, de nombreux commerçants se disent satisfaits. D'autant que de son côté, la police annonce avoir mis la main sur certains de ces enfants qui sémaient terreur et désolation dans les commerces de la place. Guylaine Kassiasia pour les détails.
Kassindi Lubiriya était grand carrefour où plusieurs commerçants viennent se ravitailler en divers produits, notamment du poisson salé. Certains proviennent du Soudan, d'autres de l'Ouganda, de la Tanzanie, ainsi que d'autres coins de la RDC. Certains jeunes désœuvrés ont profité de cet afflux pour extorquer ces commerçants. C'est ce qui a poussé la police à lancer cette opération de traque de ces enfants, devenus un danger pour la population et les commerçants. Indique le commissaire supérieur Célestin Limbi, commandant de la police à Kassindi. Les vendeurs de poissons salue cette opération. Falone Kassai est l'une d'eux.
Nous avons des manifestations qui sont connues, mais il y en a aussi des infiltrés. Ils ont des élastiques au niveau du hanche. Lors du déchargement, ils prennent nos poissons et ils mettent ça dans leur truc là. Franchement, par ballon, s'ils se mobilisent vraiment, vous pouvez perdre même pas moins de 10 à 15 kilos. Parce que ça commence maintenant à promettre, comme les agents de sécurité sont là, je pense qu'on va maintenant bien travailler.
Les commandants de la police à Kassindi annoncent avoir arrêté 5 bandits dans un fumier lors d'une opération de bouclage d'urne. Le commissaire supérieur Célestin Limbi indique que ces personnes sont auteurs de plusieurs cas de vol des biens de la population. Elles seront déférées devant la justice, précise-t-il. Beni Guylaine Kassiasia, Radio Okapi.
62 personnes sont détenues dans les cachots de l'Agence nationale de renseignement ANR à Butembo depuis 4 à 5 mois déjà. C'est ce qu'affirme le CIDOP, Centre international pour la défense des droits de l'homme, la paix et l'environnement. Dans un communiqué de presse rendu public hier jeudi, cette organisation de défense des droits humains rapporte que ces personnes sont accusées de participation à un mouvement insurrectionnel. Le CIDOP demande aux juridictions compétentes de se saisir de cette affaire qui viole, selon lui, tous les textes juridiques du pays. Sadiq Aboubakar.
D'après le rapport du CIDOP, il s'agit de 61 civils et d'un policier, tous accusés d'être membres ou collaborateurs des groupes armés. Certains ont été arrêtés en décembre 2022, d'autres en janvier 2023 et un dernier groupe en février dernier, précise le communiqué. En droit congolais, l'officier de police judiciaire n'a que 48 heures pour instruire un dossier avant de le transférer au parquet, indique le document. Le CIDOP demande à l'ANR de bien vouloir transférer ce dossier au parquet près le tribunal de grande instance de Butembo ou à l'auditorat militaire du même ressort selon les cas. Il demande également à ces deux instances de déclencher des enquêtes judiciaires sur les cas de probables arrestations arbitraires et détentions illégales dans les cachots de l'ANR à Butembo et de procéder à la libération des détenus dont les indices de culpabilité sont inexistants. Contacté, le chef de poste de l'ANR à Butembo nous a demandé de nous référer à sa hiérarchie à Beni. Tous nos efforts pour avoir la réaction du directeur adjoint de l'ANR à Beni n'ont pas abouti. Pour sa part, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Butembo dit n'avoir pas la compétence d'inspecter ou d'enquêter le travail de l'ANR.
L'invité. L'invité de ce journal s'appelle Komba Djeko. Il est le président de l'Ordre national des infirmiers du Congo, ONIC. Il nous parle du thème de cette journée internationale de l'infirmière et de l'infirmier ce vendredi 12 mai. Nos infirmières, notre culture, il explique comment valoriser, protéger et respecter la profession. Komba Djeko s'entretient avec Jemima Mbuyulu.
Monsieur Komba Djeko, bonjour.
Bonjour.
Ce 12 juin, c'est la journée internationale de l'infirmière et de l'infirmier. Sous quel signe est placée cette année?
Pour cette année, il y a toujours un thème international qui est donné pour toutes les infirmières ou tous les infirmiers du monde entier. C'est nos infirmières, notre futur. On nous demande donc de valoriser, de protéger, de respecter et d'investir dans les infirmières pour un avenir durable des soins infirmiers et des santé. Donc par ce thème, on veut se montrer que si nous voulons assurer notre avenir, nous tous, infirmiers et population et gouvernement pour des soins de santé dans l'avenir. Il faut investir aujourd'hui dans la profession infirmière. Il faut valoriser la profession infirmière. Il faut protéger la profession infirmière. Il faut respecter la profession infirmière. C'est ce qu'on veut dire au travers de ces thèmes-là. C'est important de valoriser, de protéger, parce que n'importe qui ne doit pas devenir infirmier. Il ne faut pas que quelqu'un commence ses études quelque part dans une école qui ne répond à aucune norme et à la fin on le proclame infirmier. D'où on demande et à l'État et à la population et aux infirmiers eux-mêmes de protéger les titres infirmiers.
Depuis la création de l'ONIC, qu'est-ce qui a changé dans le positif dans le travail de l'infirmier au Congo?
Bon, à l'époque, nous n'avions aucune reconnaissance juridique ou officielle. On nous appelait des infirmiers, on nous appelait des paramédicaux. Mais depuis la création de l'ONIC, nous avons une identité propre. Nous sommes donc des infirmières et des infirmiers. Il n'y a plus de confusion. Cette identité-là nous donne des droits, nous donne des devoirs et nous donne une personnalité. Parce que si vous avez un enfant qui n'a pas de nom, eh bien, il se sent toujours dévalorisé. Mais maintenant, nous avons une profession qui est autonome, même si nous travaillons dans un mode de complémentarité. Mais pour nous, ce qui était fondamental, les non-infirmiers soient reconnus officiellement dans ce pays.
Quelles sont les principales difficultés auxquelles fait face l'infirmier dans l'accomplissement de son travail?
Madame, je dois dire que le milieu par excellence du travail de l'infirmier, c'est le lieu de soins, c'est-à-dire l'hôpital, le centre de santé. Eh bien, si ce lieu-là ne répond pas aux normes en termes de dotation, en termes de sécurité, eh bien, c'est la première difficulté que nous avons. Vous savez que depuis 1960, on a créé des écoles infirmières, mais on n'a pas créé des hôpitaux de l'État. Les privés en ont créé quelques-uns à gauche, à droite, mais l'État n'a pas conçu des hôpitaux. Donc, il y a plus de gens formés, mais il y a très peu de lieux de travail. Et là où il y a des lieux de travail, dont les hôpitaux et centres de santé, l'équipement le plus élémentaire possible, le matériel le plus élémentaire possible, fait défaut. Si je parle déjà d'un lit d'un malade avec matelas, qu'on ne se trompe pas avec l'image de Kinshasa, on n'a qu'à tourner dans le pays, on va voir qu'on a des hôpitaux qui ont des lits qui n'ont pas de matelas. En première année infirmière, on enseigne comment faire, refaire, défaire les lits d'un malade, mais quand vous n'avez plus de draps, ça pose un problème. Deuxièmement, vous avez des hôpitaux qui n'ont pas d'eau. Comment on peut assurer l'hygiène dans un hôpital si on a des robinets mais l'eau ne coule pas? Si on doit puiser de l'eau dans un seau et se débrouiller avec ça. Je vous cite comme ça quelques exemples des difficultés de la profession infirmière.
Et s'il fallait revendiquer quelque chose aujourd'hui pour l'infirmière en RDC, ce serait quoi?
Ah, ça c'est le grand sujet. Je sais que la tendance est toujours tout d'abord l'argent, qu'on paye les primes, qu'on paye les salaires, tout ça, qu'il faut augmenter. Beaucoup de travail, 24 sur 24 à côté du malade, ne sont pas payés. Le gouvernement a déjà fait quelque part dans le sens de l'augmentation, mais beaucoup reste à faire. Il faut qu'on prenne donc conscience. Surtout que maintenant, nous entrons dans la période où on doit mettre en œuvre la couverture santé universelle. Donc, il y aura plus de personnes qui viendront vers les structures de soins. Il y aura donc une augmentation du travail. Et bien, si on n'augmente pas les effectifs infirmiers en les recrutant, en les mettant dans les conditions qu'il faut, en leur donnant la prime et les salaires, et bien, on va être débordé. Les infirmiers vont tomber dans le stress, dans les surménages. Ça va se compliquer. Voilà, quelque sorte, les conditions de travail, les salaires, les primes, non seulement augmenter, mais éponger ceux qui travaillent, qui ne sont pas encore payés. C'était pour nous les plus grands. Et remettre les hôpitaux au standard, même minimal possible, pour que nous puissions travailler à l'aise.
Avant de finir, avez-vous un message pour ceux de votre profession en ce jour qui vous est consacré?
Le message que j'adresse aux infirmières, c'est que cette année, le thème, il est bien clair. Nos infirmières, notre futur. Valorisons notre profession. Nous devons protéger notre profession. Nous devons respecter et faire respecter notre profession. Et nous devons nous investir pour la promotion de notre profession. Deuxième message, c'est que nous devons garder espoir. Il n'y a rien de définitif dans ce monde ici. Il faut garder espoir que les lendemains vont être meilleurs.
Merci, Monsieur Koumba Djeko.
Merci beaucoup.